VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 16h à Conakry, 18h à Bujumbura. Bienvenue à l'écoute de ce journal en ce mardi 23 juin 2015. Au Burundi, reprise en demi-teinte des pourparlers pour tenter de mettre un terme à la crise politique. L'ONU a en effet relancé aujourd'hui à Bujumbura sa médiation en présence de la société civile, de l'opposition et des chefs religieux du pays. Mais en l'absence remarquée, Jean-Roger Billon du camp gouvernemental.
Le ministre burundais de l'Intérieur, Edouard Ndiwumana, censé représenter le gouvernement, était absent d'après l'AFP. Le parti présidentiel CNDD-FDD a clairement dit ne pas vouloir participer, estimant que l'initiative en pleine campagne à 5 jours de scrutin visait à perturber les élections. La réunion était placée sous l'égide du nouveau médiateur, le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant de l'ONU en Afrique centrale. L'opposition conteste la tenue des élections législatives et communales prévues le 29 juin et la communauté internationale réclame leur report, estimant les conditions pas propices. Les pourparlers achoppent sur la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat lors de la présidentielle du 15 juillet. Une ONG burundaise affirme qu'au moins 70 personnes ont péri depuis le début de la crise politique fin avril, alors que plus de 100 000 Burundais ont déjà fui vers les pays voisins à cause du climat préélectoral délétère dans leur pays.
Autre gros titre de l'actualité, l'arrestation d'Emmanuel Karenzi Karake, chef des services de renseignement du Rwanda, samedi dernier, fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Kigali est révolté et demande sa relaxation immédiate. Le général a été interpellé à Londres sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. Il est accusé de crime de terrorisme. Salwa Jaafari.
À Kigali, la nouvelle est tombée comme un couperet. L'arrestation du général Karake est outrageante. Le gouvernement dénonce ce qu'il appelle une horreur avec toutes les pires théories conspiratrices. Mais la nouvelle n'a pas fait que des mécontents. Écoutez Ignacio Jovtis d'Amnesty International.
C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre l'impunité dans le cas de cette grande violation des droits humains. Nous espérons que cette personne vienne en Espagne et qu'elle comparaisse devant le tribunal espagnol.
Mais qui est donc Emmanuel Karenzi Karake et comment expliquer sa mauvaise posture ? 54 ans, c'est une personnalité clé du régime rwandais. Souvent surnommé Kaka, il est l'une des figures de l'ancienne rébellion à dominante Tutsi. Dans un acte d'accusation émis le 6 février 2008, la justice espagnole avait demandé l'arrestation de 40 responsables rwandais, dont le général, qui auraient eu connaissance et approuvé le massacre de civils entre 1994 et 1997 dans les villes de Rwengira, Gizei et Siengugu, y compris la mort de 3 travailleurs humanitaires espagnols. La justice espagnole a indiqué ce matin avoir lancé la procédure de demande de sa remise à l'Espagne. L'audience nationale n'était cependant pas en mesure de préciser quand cette instance se prononcerait.
Crise politique en Guinée, le chef de file de l'opposition, Seydou Alain Diallo, prêt à conclure une alliance électorale avec son ancien adversaire, l'ex-chef de la junte militaire, Moussa Dadis Camara. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant des déclarations de M. Diallo la semaine dernière à Ouagadougou, où le capitaine Camara vit en exil. Seydou Alain Diallo reconnaît s'être entretenu à plusieurs reprises ces dernières années avec l'ex-leader de la junte et les deux hommes auraient des convergences de vue d'après le chef de file de l'opposition guinéenne. Les enseignants gabonais ont lancé ce mardi une grève d'avertissement de 3 jours pour faire aboutir leurs revendications salariales à l'appel de la CONACYSED qui regroupe les principaux syndicats de l'éducation nationale. C'est ce que rapporte l'AFP. Les enseignants réclament le déboursement de leurs bons de caisse permettant le versement des salaires de mars, avril et mai, ainsi que le paiement de différentes primes d'incitation dont certains règlements ont plusieurs mois de retard. Ils ont également dénoncé le mépris des autorités à leur égard. République centrafricaine, 10 personnes ont été tuées et au moins 12 blessées dans un accident de la route survenu dans le nord-ouest du pays. L'accident, que rapporte l'AFP ce mardi, s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi sur une route nouvellement bitumée reliant Bouar, ancienne base militaire française, au poste frontière de Garoua-Boulaï au Cameroun. Toujours en Centrafrique, les autorités de la transition ont annoncé hier la saisie de 3000 passeports biométriques et de 2500 sans carte d'identité délivrée à des étrangers. Cette opération, en collaboration avec la police internationale, intervient à quelques semaines du recensement électoral, en prélude au scrutin législatif et présidentiel du 18 octobre prochain. À ce propos, écoutez au micro de Félix Yepassi Zembrou, le ministre centrafricain de l'administration du territoire, Nikes Karnou.
Nous avons, dans le cadre de la coopération avec la police et l'international, en particulier avec l'Interpol et les accords bilatéraux, nous avons pu saisir des documents qui ont été acquis en toute illégalité depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire depuis le changement du 24 mars. Et ces documents, grâce au cadre de la coopération de la police internationale, nous avons pu les saisir. Donc on a un mécanisme qui est mis en place pour que nous puissions les prendre et les détruire.
Quelle suite exactement comptez-vous donner à cette affaire, à part la destruction de ces documents saisis?
Nous avons mis en place une commission chargée d'évaluer la délivrance de nos titres de transport et nos cartes d'identité nationales, afin de s'approprier du processus, rendre ce processus beaucoup plus national, le faire accompagner dans le cadre de la traçabilité de nos titres régaliens. Il est important de procéder à une réforme dans le secteur de la sécurité intérieure pour pouvoir s'approprier ce processus.
Nikes Samedi Karnou, ministre centrafricain de l'administration du territoire. Dans l'actualité africaine encore, au Soudan du Sud, un nouveau cadre du parti au pouvoir, limogé au début de la guerre fin 2013, a été rétabli dans ses fonctions de secrétaire général du SPLM. Le retour de l'influent Pagan Amoum pourrait marquer un pas vers la réconciliation des parties rivales, indique l'AFP.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Dans le cahier international, un recruteur du groupe État islamique a été tué dans un raid de l'aviation américaine le 15 juin à Mossoul, dans le nord de l'Irak, a annoncé lundi un porte-parole du Pentagone. Le point avec Camille Gros-Didier.
Selon le colonel Steve Warren, Ali Oni Al-Khazi était également soupçonné d'être impliqué dans l'attaque du 11 septembre 2012 contre le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye, qui a coûté la vie à 4 Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. Sa mort va affaiblir les capacités de l'État islamique à intégrer des djihadistes originaires d'Afrique du Nord sur les fronts irakiens et syriens, et élimine un djihadiste ancré de longue date dans le terrorisme international, a souligné le colonel Warren. Le département d'État et les Nations Unies avaient désigné Al-Khazi comme terroriste plus tôt cette année. Le militant aurait rejoint Ansar al-Sharia en Tunisie en 2011 et il avait aidé par la suite à recruter des combattants. Il aurait aidé ces derniers à s'infiltrer en Tunisie et en Syrie tout en introduisant des armes en contrebande en Tunisie.
Également dans l'actualité, la justice française a rejeté ce mardi la requête d'une mère qui lui demandait de condamner l'État pour ne pas avoir empêché son fils de partir combattre en Syrie alors qu'il était mineur. Dans son jugement, le tribunal administratif de Paris a estimé que les services de police qui avaient contrôlé le jeune homme à l'aéroport de Nice avant qu'il n'embarque pour la Turquie n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Récemment converti à l'islam, l'adolescent âgé de 16 ans à l'époque des faits ne montrait aucun signe de radicalisation, rapporte l'AFP. Il avait embarqué le 27 décembre 2013 à bord d'un avion à destination d'Istanbul pour rejoindre la Syrie où il se trouverait toujours. Le président Barack Obama a exprimé son opposition aux préjugés basés sur la religion lors d'un repas de rupture du jeûne du Ramadan hier soir à la Maison Blanche, en compagnie notamment de diplomates, de parlementaires et de musulmans américains. Il a souligné que ce repas d'iftar est un symbole des libertés qui unissent les Américains, y compris le droit des libertés qui unissent les Américains, y compris donc le droit de pratiquer librement leur religion. Le chef de l'exécutif a également condamné les récents assassinats de fidèles dans une église noire de Charleston en Caroline du Sud. En tant qu'Américain, a-t-il affirmé, nous mettons l'accent sur le fait que personne ne doit être la cible en raison de son identité, son apparence, son choix de partenaire ou sa religion. Et voilà, point final à ce journal. Je vous retrouve dans 50 minutes. C'était Jacques Aristide à Washington. Bonne écoute sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.